France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, rendez-vous à l'Opéra Comique en compagnie d'Adolphe Adam et de son postillon de Longjumeau. Actuellement à l'affiche, pour en parler, je reçois la musicologue Sabine Telon-Lardic, spécialiste de l'opéra français du 19e siècle, et aussi Michel Faux, metteur en scène qui, du boulevard à Favart, n'en finit pas de nous faire plaisir. Adolphe Adam, on en parle dans quelques minutes, mais en attendant, vous le savez, il est arrivé mardi et c'est le moment de l'accueillir en chanson.
La fenêtre, l'air vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre. Il y a quelque chose de changé.
Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans le jardin, les lilas se trémoussent. Et les petites pommes ont déjà le pépin. Tiens, 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 les chiens lèvent la patte. Tiens, 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 les pans font les pantins. On voit les chasses pour les chais, pour les chattes. Et les escargots galopent à fond train.
Ah, quelle douceur, la vie vous semble rose, y'a pas d'erreur. Il se passe quelque chose, tiens, 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 on joue de la mandoline. Tiens, 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 l'air semblait de refrain. Y'a des chansons sur les lèvres des copines et des petits boutons sur le nez des copains. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient. Tiens, 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 les rues semblent en fête.
Tiens, 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 que demandent les gamins.
Les charcutiers ont des airs de poète et tous les coiffeurs ont du poil dans la main.
Tiens, tiens, tiens,
soupirent les douanières.
Tiens, tiens, tiens,
s'écrient les pharmaciens. Même les pompiers ont le feu au derrière.
Les rouquins roucoulent et les bègues ont le béguin.
Les vieux gandins ont toutes les audaces, mais il faut bien que vieillesse se passe.
Tiens, tiens, tiens,
la gaieté me transporte.
Tiens, tiens, tiens,
je me sens aérien. Mais v'là soudain que l'on frappe à ma porte et je reconnais la voix que j'aime bien.
Tiens, 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 c'est le printemps qui vient.
Et oui, c'est le printemps chanté par l'orchestre de Reventura en 1939, une chanson signée André Ornez et Paul Misraki. L'occasion aussi d'ailleurs de vous recommander d'aller eh bien, au théâtre Déjazé lundi prochain, 25 mars, pour le spectacle « Qu'est-ce qu'on attend pour être môme ?» autour justement des œuvres de Paul Misraki, 200 enfants sur scène. Voilà encore une façon d'évoquer ce grand musicien qui était Paul Misraki. C'est donc au théâtre Déjazé, 41 boulevard du Temple, ce lundi 25 mars à 19h.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais je vous le disais, aujourd'hui, nous évoquons le postillon de Longjumeau de retour la semaine prochaine à l'Opéra Comique et plus largement le délicieux compositeur Adolphe Adam, auquel je souhaitais rendre hommage en compagnie de mes deux invités, Sabine Telon-Lardic et Michel Faux.
Thank you.
l'ouverture de Si j'étais roi d'Adolphe Adam sous la direction d'Albert Wolff. Ouverture enregistrée par de très très nombreux chefs d'orchestre en France, en Allemagne, un peu partout dans le monde jusqu'au milieu du XXe siècle. Ça a été longtemps une des seules pages qu'on jouait encore de ce compositeur avec aussi le ballet Gisèle. Bonjour Sabine Telan-Lardic.
Bonjour Benoît Duterte.
Comment est-ce que vous expliquez ce basculement extraordinaire d'un compositeur si glorieux au XIXe siècle et si oublié au XXe siècle qu'a été Adolphe Adam, en quelques mots?
Alors, en quelques mots, je vais tenter.
On va y revenir, mais...
Disons que c'est toute une esthétique déjà que représente Adam, l'esthétique de l'hédonisme, de la légèreté, de la bonne humeur.
Oui.
Et donc, après 14-18, c'est une esthétique qui tombe un petit peu en défaveur. Et puis ensuite, pour le dire rapidement, il y a eu aussi des coups de griffe de gens célèbres, des coups de griffe du polémiste Berlioz, critique
notamment,
musicale.
Ça, du vivant d'Adam.
Du vivant, voilà. Et puis, au début du XXe, de Debussy. Debussy dit des choses incroyables sur Adam.
Aussi. Ah oui.
Voilà.
Ah,
alors
le
donc,
méchant.
Ça, plus une autre esthétique qui se fait jour, les œuvres d'Adam qui incarnent la légèreté, l'hédonisme et cette bonne humeur, sont un peu éclipsées.
Ben, en tout cas, merci d'être avec nous. Vous êtes venu de Montpellier, vous êtes professeur, chercheur à l'université, vous êtes passionné par l'opéra français du 19e siècle, hein. C'est le cœur de votre travail, on peut dire.
Oui, merci. J'ai fait une thèse sur l'opéra comique de la seconde moitié du 19e siècle en Sorbonne. Et depuis quelques années, j'interviens dans les colloques, en particulier à l'opéra comique, mais aussi à l'étranger. Et donc, c'est avec grande joie que lors du colloque du tricentenaire de l'opéra comique, j'ai pu parler du postillon de Longjumeau.
Du postillon de Longjumeau qui est donc, on l'a dit, à l'affiche de Favart. Ça commence dans quelques jours et c'est un spectacle qui est mis en scène par notre ami Michel Faux. Bonjour Michel.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous revoir. Il n'y a pas si longtemps, hein. C'était pour Fric Frac. Beau succès.
Oui, on a joué 100 fois, c'est pas mal.
Oui,
c'est dans une salle de 900 places, c'est pas mal.
Voilà, et pour une œuvre complètement oubliée, là
bien
encore.
Sûr,
hein.
Oui.
Vous aimez bien aller dans l'oublié, cher Michel.
Oui, parce qu'il y a plein d'œuvres au théâtre et à l'opéra qu'il faut redécouvrir. Et c'est passionnant, il y a tout un travail à faire, mais il faut des directeurs audacieux pour programmer ces œuvres.
Voilà, et alors ça a été le cas donc à l'opéra comique avec le postillon de Longjumeau. On va y revenir, mais en quelques mots, comment est-ce que vous êtes arrivé dans, je ne vais pas dire dans cette galère, au contraire, dans cette aventure?
C'est l'opéra comique qui m'a proposé de monter.
Vous connaissiez un peu Adam, le postillon?
Je connaissais l'air du ténor.
L'air du ténor,
voilà.
Bien sûr. Ouais.
Mais c'est Olivier Monteilly et puis la direction de l'opéra comique qui m'ont proposé plusieurs œuvres. Et j'ai complètement été séduit par cette musique et par le livret aussi, parce que ça racontait. J'ai trouvé ça très, très théâtral. Et puis cette histoire d'opéra dans l'opéra, puisque c'est l'histoire d'un homme qui devient un grand ténor d'opéra au fil de l'histoire. Et puis la musique, je trouve, est savante. Et c'est une œuvre qui est apparemment légère, évidemment, qui est délirante, qui est survoltée et en même temps qui est très acide et très cruelle.
Vous aimez le livret, ça, c'est bien que vous le disiez, parce qu'en général, quand on parle des livrets du 19e siècle, la première réaction d'un metteur en scène, c'est de dire qu'il faut le réécrire, le dépoussiérer, c'est l'expression qu'il emporte en général. Vous pensez que c'est des gens qui savaient écrire du théâtre, en somme?
Ah oui, oui. D'ailleurs, on voit en répétition, c'est extrêmement efficace.
Ouais.
C'est très drôle et c'est très... Ça part de la folie humaine, en fait.
Ouais.
Ça part de la bigamie. C'est très audacieux, je trouve, au contraire. Puis ça dit des choses aussi sur l'art du chanteur qui n'ont pas du tout vieilli, qui sont intemporels, sur l'hystérie, l'égocentrisme et en même temps le sublime du chanteur d'opéra.
Mais il faut dire aussi, Michel, que le beau chant, vous l'aimez depuis longtemps, vous le suivez, vous le pratiquez même un peu plus discrètement, peut-être. Mmh. Mais c'est vraiment une passion pour vous, la voix humaine, le chant.
Ah oui, la voix
le chant d'opéra, y compris le bel canto, et pas simplement le chant sophistiqué, mais le chant qui fait plaisir, qui fait de l'effet.
Ah oui, moi, je suis fasciné par la virtuosité.
Ouais.
C'est très suspect, la virtuosité en France en ce moment, mais pour moi, c'est exceptionnel, c'est formidable, c'est un état de grâce comme ça. Et moi, j'aime quand la technique très, très pointue est liée à l'extravagance et à la folie. Et là, avec Adolphe Adam, c'est tout à fait ça.
Tiens, je vous ai ressorti alors. Là, c'est pas Adolphe Adam, mais c'est l'époque d'Adolphe Adam, c'est l'influence majeure peut-être dans l'opéra de cette époque, une artiste que vous aimez beaucoup et qui, alors, pour ce qui est de la virtuosité, c'est quand même assez extraordinaire.
Non più mesta canto al fuoco,
La scène finale de la Cendrillon de Rossini, la Cenerentola, chantée par Cecilia Bartoli. Michel Faux, votre commentaire.
Non, j'ai du mal à parler parce que pour moi, c'est une des dernières divas qui me fait faire des voyages pour aller l'écouter chanter. Avant, j'allais beaucoup écouter chanter des grandes chanteuses. Je faisais des voyages incroyables quand j'étais ado.
Ah oui, mais quand c'est, même, déjà.
Mais c'est là, c'est vraiment la dernière diva du siècle. Et non, ce qui est magnifique, c'est la virtuosité technique est liée à la folie de l'incarnation. Ouais. Je l'ai vu, moi, dans Don Elvire de Don Giovanni, et j'ai enfin compris ce rôle de Don Elvire qui, moi, me posait des questions. Et je l'ai enfin compris quand je l'ai vu incarné par Bartoli. Non, non, comme quoi la technique n'est intéressante que si elle est liée à l'incarnation.
Bien sûr. Et bon, c'était pour vous faire plaisir, mais ça a aussi un sens d'écouter cet air de Rossini dans cette émission sur Adolphe Adam, parce que Rossini, c'est quand même la grande figure de l'opéra dans ce début de 19e siècle à Paris, Sabine Telon-Lardic.
Oui, tout à fait. Donc Rossini, installé à Paris, directeur à un moment du théâtre italien, hein, qui est le troisième théâtre lyrique de Paris. Il y a l'opéra, il y a l'opéra comique et il y a le théâtre italien où tout le répertoire italien dans sa langue même et avec des chanteurs italiens de premier renom, les Bartoli de l'époque, sont implantés. Et donc Adolphe Adam, qui a été l'élève de Boieldieu, qui déjà avait certaines relations avec Rossini, Adolphe Adam a tout à fait approché Rossini, qui était un de ses confrères et même plus qu'un confrère, un ami. Et donc l'influence que connaît Adam, c'est à la fois tout le répertoire français depuis l'opéra comique du XVIIIe siècle, les Grétry, les Monsigny, jusqu'à son professeur Boieldieu, mais c'est autant que cela le répertoire italien de l'époque, les Rossini qui sont joués au théâtre italien, et les Donizetti également, puisque Donizetti a été le voisin de palier d'Adolphe Adam.
C'est amusant d'ailleurs parce que dans son histoire de la musique, Émile Villermoz, qui était donc un proche de Debussy et Ravel, vous disiez que Debussy n'aimait pas Adam, a écrit un chapitre sur les grands compositeurs italiens comme Rossini, qu'il salue. Et puis ensuite, il y a un chapitre extrêmement méprisant sur ce qu'il appelle les italianisants. Et alors, c'est Auber, c'est Adam, et ce sont tous ces compositeurs qui sont considérés juste au fond comme des imitateurs de Rossini.
Oui, alors c'est un parti pris qui est caduque maintenant, fort heureusement. C'est-à-dire que la génération de Erol, dont l'Opéra Comique a donné le prix au clair pour le tricentenaire, œuvre excellente. Ouais. Donc cette génération de Erol et d'Adam, qui ont été d'ailleurs amis dans leur enfance, et puis celle d'Auber, c'est une génération qui justement arrive à faire la synthèse de ces deux influences. Et la musique n'a pas de frontières, et quoi de mieux que d'assimiler ces deux genres. D'autant plus que ce que Rossini et Adam ont en commun, je pense, c'est de capter le talent des grands chanteurs et des grandes chanteuses de leur temps. Puisque Rossini a écrit en particulier pour sa femme Isabella Colbran, qui était la fabuleuse mezzo qui arrivait à chanter ces vocalises-là. Ouais. Hein. Et puis Adolphe Adam, il a écrit ses opéras en pensant exactement à un chanteur, une chanteuse de la troupe. Et le postillon, il a écrit pour Jean-Baptiste Chollet, le ténor excellent, et Zoé Prévost, la soprano excellente de la troupe.
Alors, on va d'ailleurs y revenir, mais dites-nous en quelques mots, donc Adam, avant le postillon, c'est le fils lui-même d'un très bon musicien,
Jean-Louis Adam,
grande figure de l'école française de piano. Et puis c'est quelqu'un donc qui fait ses débuts dans les théâtres à Paris.
Dans les théâtres de vaudeville.
Voilà. Et ce qui va nous conduire à son premier vrai succès qui est le Chalet. Hein.
Oui, absolument. Alors, c'est tout à fait intéressant ce que vous venez de dire, parce que Adolphe Adam, il a ce double héritage, en quelque sorte, de par son père et de par l'enseignement qu'il aura au conservatoire également, l'héritage de cet opéra comique du 18e, et son père, en tant que claveciniste, a travaillé auprès de Gluck à l'Académie royale de musique, hein, donc c'est peut-être pas un hasard si on le retrouve dans le scénario du postillon. Et d'autre part, il a l'héritage de son temps et il commence, après un deuxième Grand Prix de Rome, il commence tout à fait à travailler, il essaie pas d'avoir le premier Grand Prix, et il travaille pour le vaudeville, qui est le genre peut-être mineur, c'est-à-dire écrire des couplets pour des pièces de théâtre, mais ce qui lui procure ce sens du public et ce sens de la scène, ouais, qu'il va conserver et faire éclore avec le Chalet 1834 et avec le postillon 1836.
On va écouter un petit extrait du Chalet, un des airs les plus célèbres dans ce modeste et simple asile. Peut-être encore un mot sur cette œuvre de 1834, justement.
Oui, alors c'est un opéra comique à un acte.
Un seul acte, hein, voilà.
Le privilège, c'est d'avoir un livret signé de scribe, voilà. Ce qui pour l'époque était déjà une porte, la grande porte. Et c'est d'après un Singspiel de Goethe, Jerry und Batelei.
Voilà. Hein,
donc c'est une histoire qui se passe en Suisse.
Et c'est un grand succès qui va vraiment lancer, on peut dire, la carrière d'Adolphe Adam. Hein.
Voilà, le scribe et Adam, voilà, le scribe déjà affirmé, et le jeune Adam, pour lui, c'est la grande porte ouverte et la consécration. Liberté chérie, seul bien de la vie,
Le chalet d'Adolphe Adam, chanté en 1965 sous la direction d'Albert Wolff par Denise Boursin, une archive de Radio Lyrique, notre service plein de trésors. On va encore en entendre d'autres ce matin puisqu'on parle d'Adolphe Adam et plus spécialement donc du Postillon de Longjumeau qui est de retour à l'Opéra Comique après une très longue absence, hein, Michel Faux.
Ah oui, en plus à l'époque ça avait été créé au 19e siècle mais dans l'autre salle en fait.
Oui.
Voilà, pas la salle actuelle. Et ça n'a pas été repris à Paris depuis, hein, je pense.
Voilà, c'est vraiment une renaissance.
Alors, la dernière reprise, 1936 pour le centenaire. Et donc là, non seulement l'opéra est dans la salle Fava, l'actuelle, mais le ténor Miguel Villabel va sortir en carrosse jusque dans les rues de Longjumeau pour entrer au Bercail, j'ai envie de dire, avec la chanteuse qui chantait Madeleine. Donc c'est pour dire à quel point l'identification de cet opéra avec le lieu de Longjumeau,
qui a
accueilli la statue d'Adam pour le centenaire aussi.
Justement, Longjumeau, oui, donc ville d'Île-de-France, rendue célèbre par cet opéra, mais en fait, d'une certaine façon, par le plus grand des hasards, et juste pour une question de rime. Hein.
Oui, c'est assez cocasse de savoir que, bon, Longjumeau, dans l'Essonne, pour les librettistes, Deleven et Brunswick, qui étaient des complices à la fois du vaudeville et de l'opéra comique, donc ils faisaient des rimes à tour de bras. Et donc, dans la ronde du postillon, « Oh, qu'il est beau, le postillon de... »
Alors,
ça pouvait être Sceaux, ça pouvait être Fontainebleau, et finalement, ça a été Longjumeau.
Longjumeau, c'est ce qui sonnait le mieux musicalement, et donc la ville de Longjumeau doit s'arrêter. La gloire à Adolphe Adam. Vous êtes allé visiter Longjumeau, du coup, Michel ?
Oui, bien sûr. Et le théâtre de Longjumeau avait remonté le postillon il y a 10 ans.
Également.
Dans la scène de Patrick Abéjean.
Voilà. Le postillon de Longjumeau, donc, dont on ne connaît plus guère aujourd'hui que le grand air. On ne va pas le réécouter, mais on l'entendra un petit peu dans un ensemble tout à l'heure, mais qui est donc peut-être l'œuvre qui a été la plus célèbre d'Adolphe Adam avec Si j'étais roi, pour ce qui est du théâtre lyrique, Sabine Telon-Lardic.
Oui, absolument, parce que cet opéra comique a fait la gloire non seulement de la salle Favart, mais de tous les théâtres de département qui reprenaient cette œuvre dont les ténors s'emparaient avec gloire, puisqu'il y a deux airs avec le contre-ré.
Voilà,
donc lorsqu'on avait le contre-ré dans la gorge, et jusqu'en Allemagne, jusque dans tous les pays d'Europe, et même du vivant d'Adam, de l'autre côté de l'Atlantique, jusqu'à New York en traduction.
Hein, oui, c'est ça. Et la popularité de l'œuvre d'Adam au XIXe siècle, en Allemagne notamment, est très importante. Hein.
très importante. Il a eu l'intelligence de dédicacer la partition au roi de Prusse, Frédéric Guillaume. Et il avait construit tout un réseau de contacts, parce qu'il était très entreprenant, Adam, avec un journaliste berlinois, avec un voyage lui-même où il s'est déplacé à Moscou en 1840 et sur le retour à Berlin. Donc il a contacté Meyerbeer, qui était alors en place à Berlin, évidemment. Et donc, il avait tout un réseau d'acteurs sur l'Europe. Il est même allé jusqu'à Londres, créer deux œuvres. Et ce réseau faisait en sorte que les œuvres de Adam soient traduites et jouées.
Alors, on peut dire aussi que le sujet du Postillon de Jean Jumeau, au fond, c'est un opéra sur un métier en voie de disparition, qui est ce métier de postillon, puisque quand l'œuvre est créée donc en 1836, les postillons, ils commencent à s'effacer derrière les chemins de fer et les nouveaux modes de transport, hein, c'est ça?
Oui, mais l'action se passe sous Louis XV, donc c'est toujours cette fascination pour le XVIIIe siècle. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en scène Louis XV pendant l'ouverture. On voit Louis XV en chair et en os, j'allais dire. Et parce que c'est vraiment ce fantasme du XVIIIe siècle.
Vu par le XIXe,
voilà.
Donc. Hein,
il y a ça chez Offenbach, il y a ça chez Richard Strauss, c'est ça. Ouais. C'est toujours cette fascination du XVIIIe siècle. Et avec ses hommages aussi à cette musique du XVIIIe siècle qu'il connaissait bien, en fait.
C'est ça, qu'il connaissait même, ça m'a surpris en lisant certains de vos textes, Sabine Toulon-Lardy, de voir qu'il était bien avant la mode, il s'était plongé dans la musique de Rameau, etc.,
absolument,
et dans
voilà.
toute cette musique
Alors,
baroque française.
Alors, de son temps, les années 1830-40, Adolphe Adam est le seul compositeur à réorchestrer, d'ailleurs, puisque c'est la mode des extraits de Castor et Pollux, à écrire toute une étude biographique sur Rameau, et à réorchestrer également les ouvrages de Monsigny et de Grétry. Donc, il a un lien tout à fait direct avec cet héritage du XVIIIe siècle.
Alors, vous avez parlé des deux grands airs de ténor. On saute pour l'instant le postillon de l'Anjouement. On va écouter l'autre air que j'aime beaucoup, Assis au pied d'un hêtre. Peut-être nous situer un peu ce que c'est dans l'œuvre, ce moment, Michel Faux.
Le héros, donc, Chapoux, est devenu un grand ténor.
Voilà, au début, il est postillon.
Hein, voilà. Et comme il a une voix incroyable, il est recruté pour chanter à Fontainebleau. Et le problème, c'est qu'il il fait croire qu'il est souffrant. Donc, il commence à mal chanter son air. Et puis après, on lui apprend que la femme dont il est amoureux va être présente. Donc, du coup, il accepte de chanter et il chante de façon sublimement magique.
Et ce sera chanté donc dans le spectacle, il faut le dire, on va revenir à lui par le grand, l'excellent...
Michael Spires.
Michael Spires, qu'on avait déjà applaudi dans le Pré-au-Clair, notamment à l'Opéra Comique. Mais là, j'ai retrouvé donc encore une de ces versions issues du service lyrique de la radio. C'est Henri Leguet qui donne une très très belle interprétation donc de cet air du deuxième acte.
Pas de ma triste vie il faut trancher le cou. Viens, viens, ma tourterelle, viens, ô ma tourterelle, pourquoi fuis-tu, pourquoi fuis-tu toujours, et ton tourtereau t'appelle, pourquoi fuis-tu toujours, ton tourtereau t'appelle, pourquoi fuis-tu toujours. Pourquoi fuis-tu toujours? Pourquoi fuis-tu toujours?
Henri Le Guet, merveilleux dans cet air du deuxième acte. Michel Faux, évidemment, on pense toujours qu'il faut que le chanteur soit en situation, face du théâtre, mais il y a un moment où le chanteur, il fait aussi son numéro, d'une certaine façon, quand c'est de la musique qui est tellement écrite pour mettre en valeur sa voix.
Ah oui, c'est fait pour ça, en fait. Oui. Vous savez, c'est comme le théâtre de Tréteaux, ou comme les grands acteurs de boulevard, Jacqueline Maillan, on attendait qu'elle fasse ses ornementations personnelles.
Oui, c'est ça.
Mais c'est dans le style.
Donc ça ne vous dérange pas,
je ne voulais
pas
pour ça.
Canaliser ce moment à tout prix.
Surtout quand on a des chanteurs extraordinaires, puisqu'il faut des chanteurs extraordinaires pour chanter ça.
Bien sûr, mais il y a aussi quand même effectivement des degrés, j'imagine, d'approche très contrastés pour un metteur en scène dans un opéra comique de l'époque, parce qu'il y a les moments parlés, il y a aussi tous les dialogues chantés qui sont très vivaces dans l'opéra comique, et puis il y a les airs à proprement parler, justement. Ce n'est pas le même travail, j'imagine.
Mais ça, c'est formidable, parce que vous savez, c'est comme dans les pièces de Shakespeare où c'est en vers libre et puis après ça devient en vers rimé. Ben là, c'est pareil. Ils sont déjà dans des états survoltés, excessifs quand ils parlent. Et puis quand ils chantent, ça veut dire qu'ils sont dans des états encore plus poussés. Donc ça suit une dramaturgie, en fait. C'est pas rien de passer de la voix parlée à la voix chantée. C'est pas anodin, quoi. Et c'est ça qui est extrêmement théâtral.
Et en tout cas, dans ce Possidon-Jean Jumeau, donc, vous avez, j'imagine, un certain nombre de partis pris, une lecture de l'œuvre, comme on dit. Comment est-ce que vous diriez ça, là encore, en quelques mots? Qu'est-ce que vous avez voulu?
Moi, j'ai tellement peur de faire du surplace, de ne pas me renouveler, que je me laisse totalement porter par la musique et par le livret. Ouais. Et après, mon imaginaire et mes fantasmes prennent le dessus, mais ils ne font que rebondir sur le style et sur le fond. Et donc, cette œuvre, elle est apparemment légère, elle est virtuose, mais elle est aussi extrêmement cruelle et satirique. L'air de la fin de Madeleine, par exemple, la fin du premier acte, il est carrément tragique, quoi, d'un seul coup. Il est un peu comme la vie, quoi. Il y a des contrastes très, très violents entre des choses méchantes, féroces, et puis des choses totalement gracieuses et raffinées. Et donc, on a essayé, avec le chef d'orchestre Sébastien Roulant, plus on travaille vraiment main dans la main, et ça, c'est vraiment essentiel pour l'opéra, que le chef et que le metteur en scène s'entendent. Et on a essayé de mettre en relief ces contrastes.
Vous vous sentez bien à l'opéra, en tout cas apparemment, parce que récemment c'était Ariane Naxos, très différent, mais une œuvre où il y a beaucoup d'humour aussi d'ailleurs.
Une œuvre magnifique avec un livret d'Hofmannsthal sublime, c'était à l'opéra de Toulouse, avec un chef d'orchestre qui s'appelle Evan Register, qui est un jeune chef surdoué américain. Et là aussi, pareil, c'était main dans la main, même les chanteurs ont dit, c'est la première fois qu'on voit un chef d'orchestre et un metteur en scène s'entendre aussi bien.
Ah oui,
mais
je trouve que
c'est essentiel. Mais je pense que le secret, vous savez, c'est assez simple, c'est que, par exemple, sur le Postillon de Longjumeau, Sébastien Roulant et moi, on aime cette œuvre, quoi. Ouais, on aime l'opéra, on aime cette œuvre. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des metteurs en scène qui n'aiment pas l'opéra et qui font des mises en scène d'opéra. Nous, on aime l'opéra et on aime particulièrement cette musique.
Et puis donc, vous aimez les chanteurs, et alors on va évoquer maintenant celui qui est, on peut dire quand même un peu, sans être désobligeant pour les autres, la vedette du spectacle. Vous l'admirez aussi.
C'est un extraterrestre. C'est ce qu'on appelait un divo, c'est-à-dire c'est un demi-dieu.
Michael Spiers, chanteur américain, très amoureux de l'opéra français. Absolument. Et de tous ses rôles de ténor brillants.
Avec une diction formidable. C'est une sorte de baryton qui a des contrutes et des contrerets, donc qui a des aigus percutants. Voilà, c'est incroyable.
On va le retrouver ici en français, hein, puisque c'est une œuvre écrite en français dans le Jérusalem de Verdi.
Mes amis, mes frères d'armes, voyez mes pleurs, voyez. Trop affront, n'accable pas en malheur, n'accable pas en malheur.
Michael Spyrus dans Jérusalem de Verdi, voilà. On aimerait bien que parfois que les chanteurs français chantent aussi bien le français que certains chanteurs américains, n'est-ce pas, Michel Faux. C'est un bon élève aussi sur scène pour le travail de comédien.
C'est une bête de scène, mais on le savait. Mais surtout là, il a un rôle qui a des aspects grotesques. Donc, il a beaucoup d'humour et il va être très très drôle, alors qu'on l'a beaucoup vu dans Mithridate, dans des choses plus austères. Et là, il a beaucoup d'humour sur lui. Il est formidable. Mais il faudrait parler de ses partenaires aussi.
Voilà, notamment, alors, Flori Valiquette dans le rôle de Madame de la Tour.
Qui est magnifique, qui a une voix magnifique, une chanteuse canadienne et qui a une voix raffinée et qui est aussi très scénique, très plateaugénique, on va dire.
Voilà, et puis Franck Le Guérinel, qui est venu souvent ici, qui est vraiment l'acteur-chanteur idéal. Hein.
Ben, je l'ai demandé, moi, spécialement le rôle du Marquis, parce que c'est un rôle qui est très important dans l'histoire, c'est un rôle totalement décadent, pernicieux et en même temps totalement ridicule. Et il a cette démesure. Et puis il y a aussi
Laurent Kubla
qui fait le rôle d'Alcindor. Et puis Yannis Eziadi qui apparaît brièvement dans Louis XV. Et puis, il y avait le rôle de la suivante, qui a quatre répliques. C'est vraiment Madame est servie. Donc, je ne savais pas à qui le distribuer. Donc, je me suis dit que j'allais le faire moi-même.
Oui, vous êtes un peu comme Alfred Hitchcock pour ça. Vous aimez bien toujours être là dans un petit coin, quelque part, au moins sur scène.
C'est pas mal, Alfred Hitchcock, quand même. Mais oui, je veux être sur le bateau avec les autres, parce qu'autrement, je me sens exclu.
Ah, voilà, c'est ça. En tout cas, vous nous disiez, hors micro, Sabine Telon-Lardy, que justement, on parlait des voix et que le titre original de l'œuvre, c'était...
Alors, le titre original de l'œuvre signée de Leuven et Brunswick, les librettistes, c'était un vaudeville avant de devenir un opéra. Et donc, son titre était « Une voix ».
Voilà, justement. Voilà, donc c'est une œuvre qui est construite vraiment autour de la voix. De la voix de Saint-Phar,
comme le
évidemment.
Disait Michel Faux à l'instant, sous des aspects divertissants et légers, cette œuvre dit des choses assez cruelles, puisqu'une des thématiques... la fausse bigamie sur fond d'adultère. Et l'héroïne, c'est finalement autant Madeleine qui devient la noble mécène Madame Latour et d'une femme qui a été abandonnée le soir de ses noces à la fin du premier acte. Et nous retrouvons tous ces personnages 10 ans plus tard et cette noble dame va pouvoir se venger tout en faisant la reconquête de son mari, ce qui est quand même assez fort. C'est pas le mouvement MeToo, mais c'est déjà assez fort.
Mais alors pourquoi est-ce que Berlioz était si méchant avec Adolphe Adam? Ils étaient nés la même année d'ailleurs. Peut-être
oui,
pour
ce
ça.
Sont deux frères ennemis nés en 1803. Tout les oppose, leur esthétique, la grande esthétique romantique et grandiloquente. Moi j'adore Berlioz et j'adore Adam, donc je suis à l'aise pour en parler. Et puis l'esthétique, comme on le disait au début de l'émission, de l'hédonisme parfaitement assumé par Adam, qui professait un an avant de disparaître en 1856, il écrivait dans le Constitutionnel « Je n'ai eu d'autre ambition dans ma musique de théâtre que de la faire claire, aisée à comprendre, amusante pour le public. » Ça, c'est pas du tout l'esthétique de Berlioz.
Mais moi, ça me va très bien. Moi, ça me va très bien, je dois dire, comme programme esthétique. Bon, ce qui n'empêche pas Adolphe Adam d'avoir une vraie science musicale. On a parlé de ses études sur Rameau, par exemple. On va écouter la toute fin du premier acte avec justement des chœurs en fugato et une assez grande science d'écriture, n'est-ce pas,
hein? Oui, tout à fait. Donc, Adam était organiste. Il connaît le fugato de Bach, de Händel. Il jouait la fugue de Händel en fa mineur dans les églises parisiennes. Donc, le fugato n'a pas de secret pour lui.
Thank you.
Voilà, et comme ça, on aura au moins entendu un petit bout du grand air du Postillon de Longjumeau qui est repris donc dans ce final. Ici, c'est la version avec notamment John Anderson qu'on a entendu sous la direction de Thomas Fulton, une version de 1986 qui avait permis de redécouvrir beaucoup de cette œuvre. Sabine Thelon-Lardic avec, oui, ce côté grand opéra, tragique aussi, hein, dans la partition dans ce qu'on vient d'entendre.
Absolument, on peut le dire, ce fugato donc, du final du premier acte correspond à l'abandon de Chapeloud, comme le disait Michel Faux, recruté par le marquis impresario
pour faire sa carrière,
pour faire entamer une carrière à l'Académie royale de musique sous Louis XV, et donc l'abandon de Madeleine le soir de ses noces, hein, la nuit de noces. Mmh. Donc. Et donc il y a cet aspect tout à fait tragique. Là, le final qu'on vient d'écouter, Adam, qui a toujours le sens de la scène, comme je le disais il y a un instant, il trouve à la fois par le fugato, le cœur
et l'air,
oui, le moyen de dramatiser cet abandon terrible que vit cette femme, et en même temps de mettre la ronde du postillon, qui est l'élément réaliste avec fouet et grelot, ouais, qui sont bien indiqués dans la partition, hein, donc les éléments du réalisme. Et donc on est dans une esthétique là qui est tout à fait inconciliable véritablement avec celle de Berlioz.
Alors on aura le fouet et les grelots dans les costumes de Christian Lacroix, Michel Faux.
On aura le fouet. Oui, ce qui est beau avec Christian Lacroix, c'est qu'il, j'essaie de faire le même travail que lui, c'est-à-dire qu'il part de l'historique, il part des gravures de l'époque, il part même des maquettes de la création, mais après il les réinterprète.
À sa façon, bien sûr, mais il est parti vraiment de sources précises.
Il fait toujours ça. On a travaillé sur le Tartuffe, c'était pareil, et il part beaucoup de tableaux, même de peintures de l'époque. Mais après, évidemment, il les réinterprète, il les rêve, et avec son génie. Raffiné et dévastateur.
On peut dire un mot aussi des décors d'Emmanuel Charles.
Oui, c'est le décorateur avec qui j'avais fait le Tartuffe et puis Névrotique Hôtel, et on est reparti des toiles peintes, des châssis à l'ancienne, mais traités de façon avec les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire les couleurs sont beaucoup plus saturées, on va dire, et pareil sur les lumières de Joël Fabin, on est reparti de la rampe, mais avec des moyens techniques très 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 sophistiqués de notre siècle.
Alors, quelque chose que moi j'aime beaucoup dans les opéras comiques français de cette époque, c'est que bon, il y a des grands airs de virtuosité, il y a des scènes parlées, et puis il y a aussi une espèce de bavardage en musique qui est un truc très particulier, qui est ni vraiment du récitatif, ni vraiment de l'air, et je trouve que les Français, depuis Boieldieu jusqu'à Adam, sont très doués pour ça. C'est quelque chose qui vous a peut-être intéressé dans ce travail,
mais
Michel Faux?
Oui, je reviens à...
Du théâtre en musique, vraiment, quoi.
Absolument. Je reviens à Shakespeare. Il y a de la prose, il y a du vers libre, il y a du vers rimé, il y a trois étapes. Mais là, on a les trois étapes aussi. On a le parler, on a le chanter parler, puis après on a les grands airs, évidemment. Mais en effet, c'est très moderne. Mais vous savez, au XVIIIe siècle, on disait qu'un chanteur, c'était un acteur avec une belle voix. Donc, ce problème d'incarnation, il a toujours existé, ce souci d'incarner. On nous raconte que maintenant, les chanteurs jouent, alors qu'avant, ils jouaient pas. C'est pas vrai du tout. Les chanteurs et les musiciens voulaient vraiment chercher à tout prix à faire du théâtre. Même Verdi, il avait choisi un chanteur français, Victor Morel, pour créer Falstaff, parce qu'il était très bon acteur avant tout. Donc, ce souci de l'incarnation et de la théâtralité, il est depuis l'origine de l'opéra.
Et on va peut-être en avoir une illustration avec notamment le personnage d'Alcindor et son air sur les choristes de théâtre. Peut-être on peut resituer ce moment dans le Postillon.
Alcindor, c'est un peu le rival du héros, et il devient
son serviteur, en fait.
Voilà, il était forgeron, et puis il devient coryphée au Grand Opéra, et donc il est un peu la parodie du ténor, en fait, on va dire. Cet air, c'est un peu la parodie de l'air qu'il y a eu juste avant.
Voilà comment vous êtes, vous autres, premier sujet. Vous traitez les pauvres choristes du haut de votre grandeur. Qu'est-ce que c'est que ça? M'as-tu seulement entendu pour juger de ma voix et de mon talent, hein? Je suis l'homme des nuances. Je suis plein de nuances. Oui, des choristes du théâtre, je suis vraiment la fine fleur de ma voix. On est idolâtre lorsqu'on m'entend chanter en chœur. Marchons, marchons, frappons, combattons, marchons, marchons, jurons, marchons, combattons, prions, chantons, buvons, dansons, et gué, rions, chantons, buvons, dansons, gué, rions, gué, rions, dansons, marchons. Si je représente Zéphyr, ma voix vole légèrement. Si c'est en fleuve qu'on m'admire, ma voix roule comme un torrent. Oh, 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 oh. Faut-il assis dans la prairie charmer les nymphes par mes chants? Les habitants de l'Arcadie, dois-je prendre les doux accents? Oui, les choristes du théâtre, je suis vraiment la fine fleur de ma voison est idolâtre. Quand on m'entend chanter en chœur, marchons, marchons, frappons, combattons, marchons, marchons, jurons, marchons, combattons, prions, chantons, buvons, dansons, et guéguer, guérions, chantons, buvons, dansons, guéguer, prions, guéguer, prions, dansons, de ma voix, on est idolâtre, quand on m'entend chanter en chœur, quand on m'entend chanter.
Voilà, le baryton choriste exaspéré par la gloire de son ami et néanmoins rival ténor, parce que le grand personnage dans l'opéra de l'époque, c'est forcément un ténor, Sabine Thelon-Lardic. En plus, cet air a un autre sens par rapport à la scène musicale de l'époque. Hein.
Oui, parce que tout le deuxième acte, c'est une sorte de parodie des coulisses de l'opéra, genre sérieux, au XVIIIe siècle, donc l'époque de Rameau. Et en ça, Adam reprend le chemin de ce qu'était la parodie à l'opéra comique des foires, ouais, où l'on moquait les voisins sérieux et les rivaux sérieux, c'est-à-dire on moquait le répertoire de l'opéra ou de la comédie
là,
française.
Mais c'est les Huguenots précisément de Meyerbeer.
Alors lorsqu'on l'entend marchons combattons, c'est la satire du grand opéra selon Meyerbeer, puisque au printemps de la même année que le Postillon a été créé, les Huguenots. Et puis, dans les effets descriptifs de la marche des gammes descendantes sur les torrents et les vents, c'est la satire de l'opéra ramiste ou de la tragédie lyrique sous Louis XV.
Alors malheureusement, bon, il faudrait faire beaucoup d'émissions sur Adam, mais on peut aussi assez rapidement évoquer deux ou trois autres aspects de ce personnage passionnant. D'abord, c'est comme Berlioz, son rival, un très bon critique musical.
Absolument. Donc, il a été critique ponctuel dans les premières décennies de son activité. Et puis, en 1847, lorsqu'il fonde l'Opéra National, qui est la troisième scène lyrique et qui a un avenir fabuleux pendant 4 mois, mais la Révolution de 48 arrive et donc les événements sociaux font que Adam est ruiné, puisque c'est un théâtre privé. Ouais. Hein. Donc là, il est obligé de devenir critique musical professionnel. Hein. Voilà. Il est embauché par deux journaux et il va y avoir une somme de critiques musicales pour deux grands périodiques de l'époque. Qui donne un aperçu tout à fait différent de celui de Berlioz, qui est sur la même époque, un regard différent. Peut-être que le regard d'Adam est plus clairvoyant et plus bienveillant et il est également un peu plus sociologique.
Voilà, et vous l'avez dit donc, critique musical, parce qu'il a été d'abord aussi entrepreneur de spectacle important avec cet opéra national. Et il avait d'ailleurs, je crois, notamment dans des voyages à Londres, découvert un petit peu que la musique, c'était pas seulement une affaire de privilèges et de théâtres royaux, mais que c'était aussi en train de devenir une entreprise commerciale.
C'est exactement cela. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Adam a un esprit entrepreneurial dans l'Europe des monarchies. Il a découvert à Berlin comme à Londres qu'il fallait s'entremettre aussi pour faire vivre la musique. Et j'ai un article qui paraît sur la revue musicale de Suisse romande sur cette création de l'Opéra National. L'article paraît dans le numéro Livraison de Mars.
Adolphe Adam, donc critique et entrepreneur de spectacle. Mais nous revenons un petit peu alors au Postillon avec l'aspect bouffon qui est très très important aussi dans cette œuvre et dans beaucoup d'œuvres d'Adam comme le Toréador et d'autres. Et quelque chose qui est même presque offenbachien, hein, c'est le trio du dernier acte.
Pendu
sur le mot pendu. Au fond, là, ce musicien a une espèce de goût du jeu avec les syllabes qui semble vraiment préfigurer l'époque de l'opéra bouffe d'Offenbach.
Oui, tout à fait. Le comique syllabique, on a peut-être un peu trop l'habitude de penser qu'il commence avec Hervé et Offenbach après 1855, mais c'est quelque chose qui perdure encore depuis l'opéra comique des foires, c'est-à-dire au début du XVIIIe siècle, avec des librettistes de génie comme Piron et Le Sage qui déjà travaillaient ce comique syllabique. Et Adam, lui, est le continuateur de cet opéra comique des foires en jouant sur les mots dans ce trio.
Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'il est question de pendu à ce moment-là, Michel Faux?
Parce que on se rend compte que Chapoux est déjà marié, il se prépare à se marier une deuxième fois alors qu'il est déjà marié, donc il va être puni.
Pendu, 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 pendu.
Que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu?
Pendu, 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 pendu,
que dis-tu, que dis-tu? M'expliqueras-tu, répondant.
Pendu, pendu.
À la fin, je me lasse, d'où te vient cet effroi?
Ah, c'est le coup de grâce, hélas, c'est fait de moi.
Mais explique-toi mieux,
hélas, c'est fait de moi.
À la fin, je me lasse, d'où te vient cet effroi?
Ah, c'est le coup de grâce, hélas, c'est fait de moi.
Explique-toi,
devines-tu?
Explique-toi,
devines-tu?
Mais répondons,
devines-tu?
Parleras-tu?
Pendu, 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 pendu.
Que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu?
Pendu,
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 pendu, que dis-tu, que dis-tu? Mais m'expliqueras-tu, mais m'expliqueras-tu, que dis-tu?
Pendu,
pendu.
Ce diable de marquis, ce diable de marquis, tout dedans ce logis, tout dedans ce logis, nous avait mis sous clé, nous avait mis sous clé, tu me vois accablé, tu me vois accablé.
Mais dis-moi donc,
sauvons-nous vite,
explique-toi,
prenons la fuite.
Maître-toi, cet air effrayé.
Oui, la justice nous réclame, un vrai prêtre t'a marié. Je suis venu trop tard, et tu n'es un bigame.
Un bigame.
Un bigame,
un bigame,
un bigame. Maintenant comprends-tu?
Oui, très bien.
Maintenant comprends-tu?
Mais pour ce crime-là, quoi je serais? Quoi je serais?
Pendu, 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 pendu.
Que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu,
pendu,
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 pendu, que dis-tu, que dis-tu, l'ai-je bien entendu, que dis-tu, quoi, pendu,
pendu, pendu. Si l'on vient nous prendre, nous serons perdus, et sans plus attendre, nous serons pendus. Au lieu de nous plaindre, il faut partir, on peut nous atteindre, hâtons-nous de fuir. Si l'on vient nous prendre, nous sommes perdus, et sans plus attendre, nous serons pendus.
Dieu que je viens, je d'apprendre, je suis perdu, je suis perdu.
Sauvons-nous,
je ne puis,
sauvons-nous.
Non, je ne puis m'enfuir.
Sauvons-nous, sauvons-nous,
je ne puis, non, je me sens défailli.
Reviens à toi,
non, laisse-moi.
Reviens à toi,
non, laisse-moi. Je ne saurais m'enfuir, je me sens défailli.
Reviens à toi,
reviens à toi, je me sens défailli.
Alors ma foi, chacun pour soi, alors ma foi, chacun pour soi.
Viens, non, pendu,
viens,
pendu. Pendu, 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 pendu,
pendu, pendu, pendu,
le trio du troisième acte du Postillon de Longjumeau avec ici Henri Leguet, Lucien Lovano, André Vessière dans la version dirigée par Jules Gressier à l'Opéra Comique. Ce sera donc dirigé par Sébastien Roulant dans cette salle que vous connaissez très bien, Michel Faux, que vous aimez, qui est petite. Le plateau a très peu de dégagement, la salle est intime, mais c'est peut-être le meilleur endroit pour faire à la fois du théâtre et de la musique.
Oui, l'acoustique est merveilleuse, et puis le lieu a été préservé, et donc c'est un lieu magique, quoi. C'est, je pense que les gens ont des raisons de sortir de chez eux pour aller dans un lieu aussi différent.
Oui. Et alors, un lieu donc où évidemment tout ce répertoire est roi. On évoquait à l'instant le lien peut-être avec Offenbach à cause de ce comique syllabique. Il faut dire que ensuite, dans vos prochains projets, Michel Faux, il y a notamment Offenbach en cette année Offenbach qui sera célébré à beaucoup d'endroits, dont à l'Opéra Comique avec Madame Favart. Mais vous allez monter la Belle Hélène très bientôt.
Oui, j'ai monté la Belle Hélène à l'Opéra de Lausanne pour Noël. Voilà, pour les fêtes.
Pour les fêtes.
Et j'aurai la lourde charge de faire la mise en scène et d'incarner le rôle de Ménélas. Donc je vais travailler tout l'été.
Ah, c'est beaucoup plus important,
oui,
là, oui. Vous avez travaillé le chant?
Oui, non, je chante, mais je suis un acteur qui chante. Je ne suis pas un vrai chanteur et je serai entouré que de grands chanteurs d'opéra. Donc j'ai intérêt à travailler.
Comment ça se passe quand vous montez une nouvelle œuvre comme metteur en scène? Donc, je ne sais pas, la Belle Hélène, vous avez pris des notes, vous avez réfléchi, c'est un travail qui va se faire avec les comédiens au jour le jour.
Ah non, il y a un travail en amont qui est très important. Et puis la Belle Hélène, moi ça me plaît parce que c'est une parodie de tragédie grecque. Alors c'est ça, avec plein de références mythologiques, d'ailleurs assez bien amenées. C'est assez pédagogique comme opéra en fait.
Oui, on dit toujours justement, le public d'aujourd'hui peut pas comprendre, donc faut transposer, faut actualiser, sinon les gens vont rien comprendre.
Ah non, au contraire, il faut leur parler de Vénus, de Minerve.
Bravo,
De la sœur de Jupiter qui a couché avec son frère. Enfin, c'est tout ça est très 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 sulfureux et très érotique et non, moi ça me plaît, c'est comme une tragédie baroque qui dérape en fait, donc c'est tout ce que j'aime.
Mais qu'est-ce que vous imaginez en amont, des images, des mouvements, la confection d'un spectacle?
Oui, bien sûr, mais c'est en me documentant et c'est la connaissance excite l'imaginaire, donc je travaille énormément, parce que le travail c'est, vous savez, Sacha Guitry disait travailler comme si c'était interdit, mais c'est ça. Ça me porte, c'est pas du tout parce qu'il faut connaître ou parce qu'il faut être cultivé, c'est parce que ça nous amène beaucoup plus loin et c'est ça qui est porteur.
Voilà, et ça ce sera donc la Belle Hélène dans quelques mois, après le Postillon la semaine prochaine. Un mot, parce qu'on approche de la fin, Sabine Delon-Lardic, Adolphe Adam, donc après ce Postillon, va connaître en fait beaucoup, beaucoup d'autres succès, hein. Ça devient un musicien essentiel de la scène française, certains qui sont d'ailleurs passés à la postérité, et d'autres, beaucoup d'autres oubliés, mais donc il y a évidemment ce Si j'étais roi, qui va être l'autre grand opéra comique avec lequel on a commencé. On peut juste en dire un mot, peut-être.
Oui, Si j'étais roi, donc
1852
au Théâtre Lyrique, si je ne m'abuse. Il faudrait également citer Falstaff, un petit Falstaff en un acte de 1856, et Cagliostro, un opéra dont avec une scène sur le magnétiseur qui est pleine d'inventions musicales. Il faudrait citer La poupée de Nuremberg,
absolument, qui a été enregistrée à la radio dans les années 50,
avec des jeux un petit peu érotiques sur ce que peut être une poupée ou une vraie femme.
Il y a
le farfadé avec une scène de fantôme dans laquelle Adam introduit la scène du commandeur de Don Giovanni.
Monté récemment d'ailleurs par les frivolités parisiennes.
Absolument.
À Paris, j'avais vu le
voilà,
spectacle.
Donc c'est le postillon, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. J'espère que ça va continuer.
Mais le paradoxe, c'est que ce qui va vraiment faire passer Adam à la postérité, c'est aucune de ces œuvres-là, c'est un ballet. C'est Gisèle.
Absolument. La postérité, c'est le ballet Gisèle et La fille du Danube également. Non seulement ce sont des partitions remarquables dans l'orchestration, alors là, je pense qu'on peut dire qu'elle est géniale.
Oui, oui. C'est-à-dire que c'est lui qui fait du ballet une grande œuvre orchestrale et
absolument.
Un genre orchestral, ce que son élève de Lieb va poursuivre
voilà.
Après
lui. Voilà.
Et
même Berlioz a des mots tout à fait
doux
pour l'orchestration
de Gisèle.
De Gisèle ou de La fille du Danube. Et aussi grâce au talent de très grandes ballerines comme Maria Taglioni pour le premier et Carlotta Grisi, la protégée de Théophile Gauthier pour Gisèle.
Parce que de même qu'à l'opéra on écrivait pour des chanteurs, eh bien au ballet on écrivait pour des danseurs, on composait pour des danseurs.
Hein. Absolument, et notamment là les danseuses romantiques de la grande école parisienne. avec le chorégraphe Philippe Taglioni.
Et puis, il y a aussi une œuvre que moi j'aime beaucoup, qui heureusement a été reprise un certain nombre de fois ces dernières années, il y a quelques enregistrements, c'est le Toréador, où on voit le sens burlesque, presque opérette avant l'heure d'Adolphe Adam, là encore.
Oui, alors le Toréador, c'est un petit peu comme le Potion de Longimont qui parodie la musique de Rameau et l'Académie Royale. Le Toréador, lui, recite, met en situation de parodie ou de citation, la comédie italienne du XVIIIe siècle. Donc Michel Faux parlait de cette fascination pour le XVIIIe siècle. On peut dire que Adam est vraiment dans cette fascination.
Oui, avec toujours ces trois personnages, le barbon et puis
Coraline, la jeune chanteuse.
La jeune chanteuse et son amoureux.
Il y a tout un réseau de citations et de secondes lectures que les publics de l'époque arrivaient à avoir. Et là, il y a les travaux d'un collègue, Stéphane Etchari, qui a mis à jour toutes ces citations contenues dans le Toréador, ces citations musicales, et c'est tout à fait intéressant d'observer ça.
On va écouter la fin de l'ensemble « Ah, vous dirais-je, maman » avec la très grande Maddy Mesplet qui plane au-dessus de tout ça dans les vocalises. Adolphe Adam, le Toréador, chanté par Maddy Mesplet, Raymond Hamad, Charles Clavancy avec l'orchestre de la radio diffusion française sous la direction d'Eugène Bigot. Encore une belle archive, vous avez l'air contente.
Ah, je suis conquise là.
Ah oui, on en a beaucoup comme ça et celle-ci est particulièrement réussie grâce notamment à Maddy Mesplet. Le Toréador, c'est 1849 et puis Adam va mourir relativement jeune.
Oui, en 1856, il n'a que 53 ans. La dernière soirée, il a d'ailleurs passé au théâtre. Il a rigolé avec tous ses collègues puisqu'il était le bout en train de tous les couloirs de théâtre de la capitale.
Ah, vraiment,
puisqu'il
devait
chroniquer à cette époque, donc il les fréquentait assidûment. Et donc voilà, il s'éteint dans son sommeil auprès de sa seconde épouse qui est la chanteuse Chéri Courreau, qui avait elle aussi englouti tout son argent pour son mari, pour qu'il crée l'Opéra National.
Ah oui, elle n'a pas englouti l'argent de son mari, elle a mis
son
argent au service des projets de son mari, c'est beau.
Ouais.
En tout cas, voilà, peut-être qu'Adam est à l'aube d'une nouvelle renaissance, j'espère. J'imagine que vous l'espérez aussi, vous qui vous consacrez beaucoup à son œuvre.
Absolument, grâce à la programmation de l'Opéra Comique et le talent de Sébastien Roulant, Michel Faux, Michael Spires, j'y crois profondément.
Michel, on est à quelques jours, voilà. Vous commencez là les répétitions avec tout l'orchestre, j'imagine.
Oui, et puis les costumes extravagants de Christian Lacroix, qui va amener des contraintes poétiques.
Voilà. Voilà, ça c'est l'opéra. On a parlé de vos autres projets dans le domaine de l'opéra, mais il y a aussi le théâtre, puis il y a aussi le cinéma. Comment vous en sortez avec toutes ces propositions qu'on doit vous faire jour après jour désormais, Michel?
Je ne fais que ce qui me plaît, donc ça c'est formidable. Ouais. Je ne fais rien de médiocre. Enfin, toutes les choses que je peux faire me m'animent et m'excitent. Donc là, après le Postillon, je partirai en tournée avec une pièce que j'ai jouée et mise en scène l'année dernière au Bouffe Parisien. Et là, on fait une grande tournée, c'est Douce Amère, la première pièce de Jean Poiret.
De Jean Poiret, voilà. Ça, c'est vos redécouvertes théâtrales qui nous enchantent aussi.
C'est une pièce magnifique sur la femme et ses fantasmes, et on fait une tournée avril-mai dans toute la France.
Et dans cette série-là, justement, Redécouvrons le boulevard, vous avez déjà une petite idée quelque part dans la tête?
Non, j'alterne, donc mais il y a des auteurs... moi, j'aimerais arriver à monter Marcel Aimé, Jean Anouilh, François Sagan aussi, François Mauriac, il y a des pièces de Mauriac magnifiques. Donc, il y a tout un répertoire à redécouvrir.
Alors vous viendrez nous en parler parce que le micro vous est ouvert, vous le savez.
Avec joie.
Et puis si on se quittait avec Suzy Delair.
Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'invités qui vous demandent Suzy Delair.
Non, malheureusement, mais vous savez que j'adore et qu'elle est tout près d'ici. Elle a 101 ans, notre chère Suzy Delair.
Au-delà de l'actrice décapante qu'elle était dans les films de Clouseau, mais aussi dans Rabbi Jacob, je la trouve exceptionnelle. Quoi,
vraiment. Ah oui, quand elle fait la dentiste, même
démesurée,
ça...
Elle est démesurée, parce qu'elle n'est pas du tout dans un jeu affolé, survolté.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est plus connu, mais elle a fait des très beaux films avec Clouseau et puis même avec Visconti. Mais en plus, sa diction chantée est exemplaire.
Ouais. Oui, alors on va se quitter avec La Saison d'amour. En plus, ça tombe bien puisque c'est le printemps, justement.
C'est beau, les trois valses.
Voilà, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.
Oui, je suis, je m'en rends compte, en retard et j'en ai honte. Mais il faut que je vous conte ce qui vient. Oh!
C'est la saison d'amour chantée par Suzy Delair, un choix de Michel Faux qui était ce matin mon invité et qui met donc en scène le postillon de Longjumeau d'Adolphe Adam à l'Opéra Comique à Paris du 30 mars au 9 avril. Et si vous voulez évidemment en savoir beaucoup plus sur Adolphe Adam, vous pouvez consulter via internet et les meilleures librairies, les différents écrits sur le sujet et sur l'opéra de mon autre invité, Sabine Thelon-Lardic.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et pour terminer cette émission avec quelques petits trésors musicaux que j'ai ressortis rien que pour vous, eh bien, je voudrais revenir un instant à Jacques Loussier qui nous a quittés, vous le savez, le 5 mars. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était vraiment un musicien extraordinaire, aussi doué comme compositeur que comme arrangeur, que comme pianiste, que comme accompagnateur. D'ailleurs, Suzy Delair, qu'on vient d'entendre, me disait toujours quelle joie elle avait eu de travailler avec Jacques Loussier, qui était le plus formidable accompagnateur qu'elle ait jamais, avec lequel elle ait jamais travaillé. Alors, j'ai ressorti pour vous après le Chopin de la semaine dernière, encore une œuvre un peu détournée à la façon de Jacques Loussier, avec le talent qui était le sien et avec son trio. C'est un enregistrement de 1962 et c'est la chanson de Maquis. Jacques Loussier qui aime toujours bien détourner les harmonies à sa façon, ici avec son trio, autrement dit Pierre Michelot et Christian Garros, dans ce disque RCA de 1962, ressorti spécialement pour vous des archives de Radio France.
Thank you.
encore un musicien qu'on entend trop peu et qu'on méprise même parfois un peu à tort, je trouve, puisqu'il s'agit d'Aram Khatchatourian, ici son ballet Gainae, le tout début du premier acte intitulé Le Printemps encore, danse des jeunes filles, Le Printemps, interprété par l'Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou sous la direction de Yansung Kakidze. Et puis tiens, voilà encore un trésor ressorti de nos archives grâce à la vigilance de mon ami Romain Couturier qui aime bien aller explorer les dédales de cette extraordinaire discothèque qui est la nôtre à Radio France. C'est une chose un peu kitsch mais assez amusante qu'il a donc trouvé pour vous un disque de 1972 produit par le Crédit Agricole en forme de comédie musicale pour porter les slogans publicitaires de cette banque. Alors il y avait 8 épisodes qui sont sortis donc dans ce mini 45 tours qui sont composés par toute une équipe, composée de Joe Grassi, Paul Piot, Daniel Clément, et puis interprétés par Alain Jory et Anne Germain, vous savez, la doublure de Catherine Deneuve dans les films de Michel Legrand. Et voilà, c'est donc tout à fait l'esprit d'une comédie musicale, sauf que c'est là juste pour vous vendre le Crédit Agricole. C'est pas de la publicité détournée, hein, c'est juste pour le côté kitsch et amusant du petit document dont voici 2 extraits.
Le Crédit Agricole présente Frédéric et Cécilia. Premier épisode, l'un des 7500 bureaux du Crédit Agricole, celui de Monsieur Lecourtois. Une jeune fille entre.
Bonjour messieurs, dehors il pleut, j'ai le cœur noir, je viens vous voir, quand je suis là, je me sens chez moi. Quand une femme a le coffre, elle va parfois chez son coiffeur, moi je préfère le Crédit Agricole, car j'en raffole.
Elle en est folle, folle du Crédit Agricole.
Bonjour Monsieur Lecourtois, expliquez-moi pourquoi ici tout le monde est si gentil.
Entendez-vous cette musique? Ce sont les ordinateurs du Crédit Agricole
qui travaillent, qui comptent et qui calculent et qui s'occupent de vous, encaissent vos salaires et qui prélèvent vos paiements pour vous, ce qui nous laisse le temps de mieux nous occuper de vous.
Troisième épisode. Dans un des 7500 bureaux du Crédit Agricole, Frédéric et Cécilia se regardent éblouis.
Nous avions toutes les chances.
7500 chances de nous rencontrer.
C'était le destin, je devais te trouver.
Je devais te trouver.
On devait se trouver un jour au détour de la vie. Dans ce bureau, ami. C'était le destin, nous avions une chance.
À travers toute la France,
de découvrir l'amour un jour.
Voilà 2 extraits de Frédéric et Cécilia, la comédie musicale conçue pour la campagne radio du Crédit Agricole en 1972. Encore donc une de nos belles archives de Radio France. On va se quitter maintenant, ou presque, avec les légendes de la forêt viennoise.
Thank you.
Les histoires de la forêt viennoise, opus 325 de Johann Strauss fils, par l'orchestre du Volksoper de Vienne sous la direction de Max Schönherr. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique soit de Boucorsa, assisté de Jean-Paul Lafavergès, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, eh bien, je recevrai la grande cantatrice Christiane Stutzmann. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.